chez le roi. Marie-France Guimard-Roche est très heureuse de vous présenter son émission consacrée à Versailles. Dans son palais de la Hofburg, à Vienne, Élisabeth d'Autriche écrivait en secret un journal en vers, retrouvé et enfin dévoilé 100 ans après son assassinat. Préfacé par Catherine Clément, le journal poétique de Sissi, dont nous publions dans le Figaro des extraits, est surprenant. Langage cru, humour caustique, caricature, sous la plume de la légendaire impératrice, coule une âme de révolutionnaire. Étrange d'imaginer cette flamboyante jeune femme, telle qu'elle fut peinte dans l'éclat de ses 27 ans, par Franz Xaver Winterhalter, posant de profil, vêtue d'une robe en soie dorée à crinoline, ses longs cheveux défaits, écrire ceci. Chant de la mer du Nord. Je suis une mouette d'aucun pays. Je n'appelle aucun rivage ma terre natale. Ni lieu, ni place ne me lie. Je vole de vague en vague. Hier encore, je voyais le plus beau saphir. Dans le bleu profond, il gisait au-dessous de moi, couronné d'oliviers et de myrtes, qu'entourait le vol léger des papillons. Aujourd'hui, mes ailes frôlent l'écume de la mer. Ces vagues me bercent et m'invitent aux rêves. Du lointain nébuleux parvient doucement, venu du fleuve Neckar, une musique. Et je vois les ruines du château qu'enveloppe de fils d'argent les riches rayons de la lune de mai. Ils glissent à travers la porte et les salles, et de l'autre côté, à l'ombre des arbres abîmés dans des rêves olympiens, à demi couverte de son bouclier, repose l'image de marbre du magnifique. En 1951, le président de la Confédération helvétique se trouva confronté à un cas de conscience. Il venait de faire sauter les scellés d'une cassette contenant les poèmes de feu Son Altesse impériale Élisabeth d'Autriche. Penser qu'elle avait été assassinée à Genève un demi-siècle plus tôt et que c'était à lui de lire en premier. À son émotion succéda une perplexité sans nom. Républicaine, violente, grossière et parfois crue, les poésies de l'impératrice étaient impubliables en Suisse. Il y avait un abîme entre l'image sublime de la plus belle femme de son temps et ce langage de Chartier. Le président Ether consulta le Conseil fédéral et il fut décidé de dissimuler au public l'œuvre qui n'était pas signée Élisabeth, mais Titania. Avec Sissi, il faut s'attendre au pire. Foucade, caprice, passion subite, voyage au pied levé. Tout lui fut bon pour combattre l'ennui de la cour impériale. L'épopée des cassettes ne fait pas exception, car elles étaient trois, sinon plus, ces maudites cassettes. Ignorant jusqu'à l'existence des autres, le président Ether n'en avait ouvert qu'une. L'affaire des trois coffrets commence au beau milieu de l'année 1890. Un an déjà que son fils était mort. À Mayerling, l'archiduc héritier s'est tiré un coup de feu au-dessus de l'oreille gauche, selon la version officielle. Rodolphe, ce fils troublé qu'Élisabeth n'avait pas élevé quand il était petit. Rodolphe n'était plus. Douleur, remords, insurmontable deuil. L'impératrice s'habillera en noir et ne portera plus de bijoux, sauf une minuscule tête de mort en or, fétiche de Rodolphe. Elle n'écrira plus jamais de poèmes. En revanche, sur leur publication, elle avait son idée. Depuis la catastrophe, Sissi navigue en mer. Mais pour ce qu'elle voulait faire, les bateaux tanguaient trop. On ne peut pas régler le sort d'une œuvre poétique en écrivant sur un voilier, même grand. Les palais ? Pas question, ce sont des prisons. Restait son train spécial, tendu de velours drapé. De toute façon, elle ne pouvait rédiger ce testament-là dans l'immobilité. Donc, elle opta pour la vitesse extrême et se mit à l'ouvrage. Les poèmes d'Élisabeth d'Autriche seraient remis 60 ans plus tard au président de la Confédération helvétique, légataire des originaux. Les droits d'auteur iraient aux condamnés politiques les plus méritants et à leurs proches dans le besoin. À moins, ajouta-t-elle, qu'on ait découvert le moyen de se rendre sur une autre planète. Et le tout s'adressait à une chère âme du futur, qui n'était pas née encore. Parfait calcul quand on la connaît. La Suisse, une république fédérale, pas une monarchie, l'impératrice était républicaine. Elle avait soutenu les condamnés politiques de Hongrie, sa patrie de l'âme. En 1950, l'affreux 19e siècle, si dur aux femmes libres, aurait cédé la place au 20e siècle. idéaliste. Elle était assez prophétesse pour rêver qu'on pouvait poser le pied sur la lune. Bref, elle mit le meilleur d'elle-même dans le legs des poèmes. Restait la signature, Titania. Dans l'œuvre de Shakespeare, Le songe d'une nuit d'été, Titania est la reine des fées, l'épouse d'Oberon. Celle qui par magie s'éprend d'un âne. Sissi n'a jamais épargné son empereur de mari. Âne et Oberon tout ensemble, les poèmes le disent assez. Mais les poèmes étaient secrets. Donc, pour être précise, Sissi fit peindre au mur de sa chambre à coucher l'âne empereur et elle-même en Titania. Il n'est pas sûr que le destinataire ait mieux compris le message de sa femme que le président suisse les poèmes de l'impératrice. Elle ajoute une ligne, écrite en plein été 1890, dans un train spécial, filant à toute allure. C'était fait. Du 30 octobre au 4 décembre 1886, l'impératrice a résidé dans son château hongrois de Gödöllő, près de Budapest. Elle n'avait pas permis à sa fille Marie-Valérie de venir avec elle, car le choléra sévissait à Budapest. Et à présent, elle se plaignait de sa solitude. Abandonnée. Dans ma grande solitude, je fais ces petites chansons. Mon cœur, plein de douleur et de tristesse, oppresse et abat mon esprit. Comme j'étais jeune autrefois, et riche en joie de vivre et en espoir, je pensais que rien n'égalait mes forces. Le monde était encore ouvert devant moi. J'ai aimé, j'ai vécu, j'ai parcouru le monde. Mais je n'ai jamais atteint ce que je cherchais. J'ai trompé et j'ai été trompée. Ce poème est adressé au roi Louis II de Bavière, qui est souvent désigné par Élisabeth comme un aigle. Elle-même est alors une mouette. La deuxième strophe fait allusion à une rencontre des deux cousins en 1881. Élisabeth, accompagnée par son mort Rustimo, avait alors rendu visite au roi dans l'île des Roses, sur le lac de Starnberg. Ils avaient fait une promenade en bateau tous les trois. Rustimo chanta des chants populaires étrangers sur sa guitare et le roi le récompensa en lui donnant une bague. Selon le journal de Valérie du 20 juin 1885, l'impératrice se rendit une fois encore ce jour-là dans l'île des Roses, mais ne rencontra pas le roi. Maman écrivit l'un de ses poèmes, le cacheta, à l'adresse du roi et le laissa ensuite dans l'une des pièces. Que dira le roi ? Il s'agit indéniablement de ce salut. « Ô aigle, là-haut, sur les montagnes, la mouette de la mer envoie un salut depuis ses vagues écumantes, vers toi, dans les neiges éternelles. Autrefois, nous nous sommes rencontrés devant une éternité d'un gris originel, au miroir du plus charmant des lacs, au temps florissant des roses. Muets, nous glissions l'un près de l'autre, abîmés dans une paix profonde, sans autre compagnie qu'un noir et ses chansons dans la petite barque. » Marie-France Guémaroche vous retrouvera à Versailles ou dans un autre palais pour une autre émission de Bienvenue chez le Roi, enregistrée et réalisée par Émilie Glory dans les studios du Rocas de Radio Grand Ciel.